Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui, selon Luc, fait référence au prophète Jonas. À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas, le prophète. L'évangile d'hier, 28 février, selon Matthieu, présente la prière du Notre Père donnée aux disciples qui demandaient à Jésus comment prier. Alors comment passer d'un jour à l'autre, d'une prière d'espérance à une déclaration si surprenante et implacable? En se replaçant dans la chronologie de l'évangile de Luc, celui-ci indique comme Matthieu l'épisode du don de la prière du Notre Père aux disciples. Il poursuit sur la nécessaire demande des hommes à Dieu du don de l'Esprit-Saint, qui peut même sembler à regard humain insistante, dérangeante et inopportune, mais pas au regard de Dieu. Puis vient la guérison d'un homme muet. Et c'est à cet événement qui déclenchait chez certains la mise à l'épreuve de Jésus, en cherchant à obtenir de lui un signe venant du ciel, qu'intervient ce verset de l'Évangile. Dans ce contexte, Jésus fait référence à la première lecture du livre de Jonas. Cette mémoire est importante car elle rappelle la réponse des Ninivites à l'annonce d'un prophète parcourant très rapidement l'immense ville païenne de Ninive. Point de miracle, mais une simple annonce, sans espérance. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. À la lecture du livre de Jonas, un prophète visiblement peu enthousiaste, il a d'abord fui sa mission, puis exprimé peu de joie au salut accordé par Dieu aux Ninivites. On constate pourtant que Dieu, par cette annonce du prophète, a su convertir une grande foule, sans miracle ni promesse. Seul Dieu peut imaginer cela. L'important est donc la réponse apportée par les hommes à la présence de Dieu parmi eux. Dans le cas des Ninivites, il est indiqué que les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus petit au plus grand, se vêtirent de toile à sac. Le roi de Ninive, l'apprenant, fit de même et s'assit sur la cendre. Dieu voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, renonça au châtiment dont il les avait menacés. Alors pourquoi Jésus a-t-il des mots aussi durs pour la génération qu'il rencontre? Et comment en tirer une voix d'espérance? Bien sûr, Jésus ne dit pas ces mots à la légère. Il semble donc parler à un peuple à la nuque raide, à des gens rebelles à la conversion et qui n'accueillent pas la présence du Fils de Dieu, bien plus que Jonas au milieu d'eux. Cette période de carême, qui a débuté par le mercredi des cendres, doit donc nous rappeler l'attitude humble des Ninivites. Jésus précise même qu'ils se lèveront lors du jugement de cette génération mauvaise et la condamneront. Il semble possible d'extrapoler cela à toutes les générations mauvaises. La période de carême est donc une période de jeûne, de prière et de pénitence. Quelle attention portons-nous à cela? En tant que chrétiens, y répondons-nous ainsi? Oui, bien sûr, mais quand même, c'était pour avant. Maintenant, le confort, la liberté, la facilité ont changé nos sociétés, c'est une autre époque. Pour Dieu, qu'est-ce qui a changé? Nous ne pouvons pas y répondre à sa place, mais nous pouvons nous questionner cependant. Sommes-nous une génération prompte à rechercher les miracles, les réponses spectaculaires et immédiates, en oubliant que la croix portée comme le Christ est un long chemin de patience et de persévérance, d'abandon et d'amour révélé dans l'épreuve? Bien sûr, des signes, il y en aura, mais ceux qui proviennent de la grâce se manifestent le plus souvent par une paix infuse et douce. La prévenance de Dieu se veut bien souvent discrète et intime. La souffrance et les épreuves, les nôtres mais aussi et surtout celles de nos proches, nous font espérer toujours une réponse rapide, spectaculaire, et par des moyens et des intervenants, parfois douteux, mêlant l'apparent bon avec le mauvais. Et il convient de discerner la présence de Dieu des pratiques magiques déguisées qui pullulent à notre époque. Ce discernement ne peut passer que par un chemin de prière, de lecture de la parole de Dieu et de sanctification personnelle, non de recherche isolée et opportune, de spectacles spectaculaires ou de guérisseurs. Le salut de Dieu vient bien par Jésus, mais c'est la foi qui sauve. Pour les pèlerins que nous sommes, de passage dans une époque tourmentée, où les critères de la société prônent une existence autonome sans Dieu, niant le plus possible son existence, cet évangile semble nous ramener au temps des Ninivites, et donc à répondre de la façon qui plaît à Dieu, la repentance et la prise de conscience de notre état spirituel, à la lecture des évangiles et non selon les critères de la société, bien sûr. La prière confiante vers un Dieu de miséricorde, la seule crainte devant être d'offenser Dieu. Le jeûne, adapté à la situation particulière de chacun, pourvu qu'il soit sincère et discret. Tout cela ne peut s'envisager que dans la lecture régulière, si possible quotidienne, de la parole de Dieu, qui est nourriture spirituelle, méditée dans la chambre intérieure de notre cœur. Nous pouvons évoquer cette phrase de Pierre Chrysologue à méditer. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Quel beau programme de carême pour porter sa croix, pour trouver l'amour et la joie. Sans nul doute, un tel programme aura pour effet de nous faire comprendre la pauvreté qui plaît à Dieu. Cela veut dire limiter nos appétits, nos égoïsmes, avoir faim dans le sens de ne pas être repu ou ragoulé, et revêtu d'humilité pour nous rapprocher de nos frères les plus affaiblis ou rejetés. En conclusion, que tirer d'un évangile aussi implacable en son temps de carême? Tout d'abord, il ne semble pas possible de se soustraire à un exercice de vérité sur nos situations personnelles. Sommes-nous des chrétiens arrivés? Si les réponses nous poussent à l'orgueil et au pharisianisme, il y a urgence à la conversion. Avons-nous un cœur plus païen que chrétien? Courage, les Ninivites ont été convertis. Ils ont accepté Dieu dans leur vie. Imitons-les et n'ayons pas peur. Les conversions les plus inattendues et inespérées sont celles qui comblent le plus le père de l'enfant prodigue. Et souvenons-nous qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Plus que jamais, avec Jésus à nos côtés jusqu'à la fin des temps, il devient raisonnable d'espérer contre toute espérance, puisque Dieu semble lui-même, comme pour les Ninivites, espérer notre espérance, exprimée dans l'humilité et la repentance, et manifestée pour notre époque dans la foi du salut en son Fils, Jésus-Christ.